Je ne sais pas s'il y a des personnes dans la salle qui ont un peu le même sentiment. C'est par rapport aux présentations féminines, on voit qu'elles étaient plus, elles étaient peut-être plus sur un côté échec, où ça n'a pas marché, et que les trois présentations masculines, elles sont plutôt axées sur le succès. C'est un peu le sentiment des deux, je ne sais pas si vous avez.
Et moi sur le succès.
C'est des contextes de recherche différents, mais nous on a monté nos activités en tant que salarié ou doctorant dans une organisation qui a vu une fin, mais que ça n'incite pas des changements dans leur pratique, dans leur statut de chercheur.
Là, effectivement, nous on n'était pas au sein d'une organisation, on était plutôt dans un contexte de recherche indépendante, même si c'est pas des anciens. Monsieur ?
Si je reviens sur le projet Greenlis, on voit bien la logique descendante remontante. Les ingénieurs qui ont construit quelque chose qui disent c'est formidable pour vous, on va le faire. Et puis finalement, c'est d'avoir un sociologue qui dit aux gens quel projet c'est bien pour eux. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il arrive que le sociologue soit sollicité bien avant le projet et qu'on lui dise on a l'idée de faire ça, comment vous voyez, est-ce qu'on peut discuter avec des gens en panel, ou est-ce que c'est vraiment toujours sous forme de haut secours qu'il intervient? Et est-ce que finalement le combat n'est pas perdu d'avance pour le sociologue et pour les autres, à partir du moment où on parle d'effacement, de smart grid, de passive house, des termes que personne ne comprend?
J'ai rebondi sur trois trucs en même temps, très rapidement. Pour moi, la sociologie ne dit pas, en tout cas pour moi, ne dit pas aux autres disciplines de rien compris. Pour moi, c'est, bon, l'ingénieur va apporter sa lumière, puis le sociologue va apporter sa lumière, ce qui fait qu'on a un objet un peu plus visible dans sa totalité, jamais complètement, mais donc, l'idée, c'est de joindre ces deux visions-là, ensuite joindre le marketing, ensuite joindre les lycées organisationnels, etc., etc., qui vont avec. Donc, ça, c'est une première chose pour moi. Ce qui m'amène à l'autre question de l'échec. Je pense que de penser que nos études ne sont pas prises en compte, que c'est un échec, c'est une question d'ego. Moi, franchement, on me paye, on me demande de faire un boulot qui inclut des préconisations, parce que dans mon domaine climat-énergie, on ne fait pas de préconisations à la fin de l'étude, pas de publication, plus de financement, plus rien, plus de rien. Donc, on est obligé d'en faire. Mais moi, je considère qu'une fois que j'ai fait ça, c'est plus mon bébé, quoi. Là-dessus, mon fils, je vais peut-être encore mieux encadrer un petit peu plus que l'étude, que ce qui va se passer avec mon étude une fois que c'est terminé. Donc, est-ce que, pour ensuite revenir à votre question à vous, il y a une autre étude sur laquelle j'ai travaillé, et là c'était vraiment une étude payée direct avec les grandes compagnies microélectroniques, pour regarder les effets des effacements dans un milieu tertiaire. Et ça, ils l'ont fait alors que la plateforme d'effacement n'était pas encore terminée. Et ça servait justement à améliorer la plateforme. Donc, non, le sociologue, dans ce cas-ci, n'a pas été dès l'amont, mais quand même relativement tôt, parce que ce n'était pas encore fignolé. On n'a pas demandé de réparer les trucs qui étaient fignolés ou de dire, ben voilà. Là, c'était, on a encore de la marge pour améliorer, pour modifier les trucs, pour changer, pour voir comment ça peut se passer, essayer de comprendre, etc. Et je suis rentré dans des enjeux organisationnels. Je ne leur avais pas annoncé dès le départ, mais je savais que ça allait jouer un rôle, mais je me suis dit, je rentre là-dedans tout de suite. Peut-être que je n'aurai pas le contrat. Quand j'ai fait mon analyse des enjeux organisationnels, j'ai ensuite proposé aux deux personnes qui étaient responsables, est-ce qu'on le met dans le rapport ou pas? Est-ce que j'en parle ou pas? En fait, l'organisation était très ouverte. Ça remet en question deux grands principes de l'organisation hiérarchique, et pourtant ils ont accepté quand même. Voilà. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Absolument pas, je suis sûr que ça ne changera rien l'hiérarchie. Mais voilà. Donc, oui, encore oui. Et de plus à plus, en avance.
Pour compléter du coup sur effectivement cette demande de, on va dire, de sociologie un peu roue de secours, venir chercher une fois qu'il y a des problèmes, parce qu'effectivement c'est un reproche entre guillemets qui a pu être fait aux commanditaires de recherche ou aux acteurs de pas solliciter plus en amont les sociologues. Et donc c'est vrai qu'en tout cas autour de l'énergie, vu le foisonnement de travaux, ça a quand même fait du chemin à ce niveau-là, et on est toujours sollicité en amont des projets, justement, pour participer à la construction des projets. Mais dans ce cas-là, ça pose aussi un certain nombre de problèmes méthodologiques. Parce que la sociologie, c'est pas projectif, il faut avoir une réalité à constater. Donc on peut faire aussi un pas de côté pour s'inspirer d'une autre réalité que l'on observe et en tirer des enseignements pour celle qu'on s'apprête à construire. Mais je crois que le fond des choses, en fait, c'est que les sociologues ne sont pas... On demande parfois aux sociologues de résoudre les problèmes humains, alors qu'en fait, moi j'ai le sentiment que le métier du sociologue, c'est d'observer, d'analyser le problème, de le rendre compréhensible par les acteurs, pas forcément de le résoudre lui-même. Ou en tout cas, il n'est pas en capacité, il n'est pas formé pour le résoudre lui-même. Et donc, l'appel à la sociologie, en fait, cache parfois une demande de compétences qui ne sont justement pas forcément des compétences techniques, qui vont peut-être être plus des compétences humaines. Hein, c'était un peu la logique du réseau, justement, à l'usage, où il y a à la fois, effectivement, des sociologues, psychosociologues, Delphine en fait partie, et il y a également des gens qui ont des compétences qui sont plus de l'ordre de l'accompagnement du changement, l'animation, et donc des compétences complémentaires, on va dire, pour résoudre ce type de problème.
Vous parlez du fait que les attitudes des gens qui sont réactionnaires, qui ne suivent pas les consignes, est-ce qu'il y a un intérêt à regarder dans les autres pays finalement, ça n'importe rien, mais je ne sais pas trop comment m'expliquer, mais en gros, je vais partir de ce que je connais, la Suède. La Suède commence à travailler pour le collectif, à faire pour le collectif, donc va suivre en fait les consignes plus facilement. En même temps, un nouveau, une ville qu'ils ont construite, un espace plus économe, d'habit à la ville, a été construit justement dans un esprit on réutilise des déchets, on utilise l'eau, etc. Donc là, au final, il y a quand même un fiasco parce que ça n'a pas pris au niveau des comportements. Mais est-ce qu'il y a un intérêt, si on veut agir, à aller regarder ailleurs pourquoi est-ce que ça marche? Parce que sur une région qui est à l'ouest ou une région qui est à l'est, finalement, on a des cultures différentes. Pour moi, c'est aussi ça, peut-être, le rôle que le sociologue pouvait apporter, regarder comment est-ce que les différents endroits, je peux appliquer, je sais pas, il n'y a pas de solution universelle. Et c'est vrai que, pour revenir aussi sur la notion d'échec, c'est quelque chose qui, en Suède, n'est vraiment pas vu comme un... Tu me disais, l'architecte et l'ingénieur ont vécu ça comme un échec personnel. En Suède, toutes les méthodes évaluatives qui évaluent les gens sont aussi dans la critique, et de la critique, on apprend. Donc à la fin des cours, il y a toujours un questionnaire, et les étudiants sont souvent en disant « voilà, ça n'a pas pu parce que, ça n'a pas pu parce que ». Mais eux le disent comme de même niveau. Sauf que là, en France, c'est plus personnel, on se dit moi je pense que c'est plutôt positif pour les gens. Parce qu'à partir de là, ça veut dire qu'on ne peut pas agir sur telle ou telle chose, mais par contre, ça veut dire qu'on peut peut-être agir en agissant de telle ou telle manière. Enfin, moi, je pense qu'on peut agir. Mais voilà, pour le côté pays étranger, je ne sais pas si.
Je vais peut-être pas te la répondre vraiment, mais en tout cas, effectivement, je pense que c'est important de prendre en compte les différences culturelles, d'ailleurs, que ce soit entre les pays ou même les régions. Voilà. Après, moi, je suis toujours méfiant avec la lecture culturaliste d'un problème, au sens réduire finalement la compréhension du problème à un trait culturel. Parce que, comme tu le disais, finalement, cette résistance des usagers à adopter les pratiques qu'on les pousse à adopter ou dont on a fait l'hypothèse qu'ils adopteraient, elle se trouve, quelles que soient les cultures. Pour moi, c'est plus une question de à quel moment, ça a été dit ce matin, de quelle marge de manœuvre on leur laisse aux différentes étapes du processus de décision, finalement. Que ce soit au moment de la conception de ces ensembles urbains, de ces bâtiments, ou une fois que les bâtiments sont livrés, est-ce qu'on leur laisse finalement une place pour participer à la gestion de tout ça? Voilà. Ou alors est-ce qu'on cherche à leur imposer de manière autoritaire un mode de vie ou des comportements?
C'est Ouais.
Parce que certaines cultures ont besoin de plus d'espace que d'autres et d'autres ont besoin d'être plus encadrés pour pouvoir agir. Il y a une des grandes différences entre les pays latins en Europe et les pays anglo-saxons, c'est dans les représentations des gens, la place de l'État dans l'environnement. Les Français râlent tout le temps contre leur État, mais ils lui demandent de tout faire. Ce n'est pas le cas en matière d'environnement, plus dans d'autres matières d'ailleurs, dans d'autres pays anglo-saxons où la responsabilité individuelle, ils ne comprennent même pas pourquoi l'État devrait se préoccuper de leur truc. Quoi. C'est une puits grêle que fait l'État. Quand j'entends en France, je dis putain, mais sous moi. Mais c'est une citation de mec qui venait de. Bon, il vient de perdre quelques fenêtres à cause d'une puits grêle, je m'en fous. Donc, que fait l'État? Ben, l'État n'est pas responsable d'un point de vue nord-américain de la grève, donc on ne voit pas ce qu'il pourrait faire. C'est probablement une assurance privée, donc utilise ça, quoi. Sur la comparaison, moi je trouve que la comparaison peut nous amener à mieux comprendre ce qui se passe chez soi. Le commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur la vulgarisation fait que potentiellement on comprend plus mieux ce qui se passe en France, pourquoi il y a cette image élitiste, etc., etc. Est-ce que ça résout le problème en France pour autant? Absolument pas. Ça n'apporte aucune solution. Dans d'autres cas, je pense que ça peut aider, mais je pense que ça amène peut-être une meilleure compréhension du problème, pas nécessairement des solutions différentes. Ensuite, si tu veux avoir une solution en Italie, en Inde, en machin, là, on va dans le local, tu fais du local, voilà. Là-dessus, j'ai fait la comparaison pendant du temps sur d'autres sujets, je trouvais que c'était utile, mais là-dessus, pas trop.
De votre expérience, quand on parlait des modes de récession et notamment de ceux qui perçoivent le mieux et qui s'approprient le mieux les résultats de vos travaux, moi ce que je constate quand je fais des interventions, c'est que finalement il y a vraiment une question d'échelle par rapport au niveau opérationnel. Finalement, les acteurs plus sont proches de l'opérationnel, typiquement les bailleurs sociaux, les gestionnaires de bâtiments, ceux qui règlent les thermostats et qui doivent répondre 10 fois au téléphone dans la journée si c'est à 19, ceux-là, c'est très facile de les convaincre de s'approprier parce qu'ils ont été très exposés à l'impact de l'enjeu humain. Et finalement, plus on monte loin dans les politiques et loin du terrain, moins les gens ils sont en capacité de comprendre ce qu'ils vont faire tout ça et à quoi ça sert. Et puis finalement, la loi, c'est la loi. 19 degrés, c'est dans le code de la construction. Point. Enfin, je ne sais pas si vous avez la même perception. Moi, c'est ce que j'ai cru voir, mais...
Non, mais ce qui s'est passé, c'est que nous, on avait compris qu'on faisait un truc sur les 40 ou 50 personnes qui participaient. Ce qui a été compris, c'est que nous, on a pris du temps à comprendre, c'est qu'il y avait des enjeux de prise de marché sur des milliers et des milliers de ménages potentiels et des millions d'euros potentiels. Et ça, on n'avait pas compris. Ça nous a pris trop de temps. Donc. Des fois, les chercheurs ont un petit peu à côté de la plaque sur plein de choses. Là, on était grave. Et donc, ça remonte très haut, en fait. Mais le potentiel d'utilité du rendu de cette étude pour une prise de marché, pour un meilleur service, etc., on n'avait pas compris. En tout cas, dans ce cas-ci, non. Jean-Marc Curie, ça s'était approprié complètement, il était élu, il était... ça n'a pas marché, voilà. C'est quoi, toi?
Ben, moi, j'ai vraiment constaté pleinement ce que vous dites. Enfin, j'étais en thèse CIF, donc en entreprise, et dans une filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est vrai que j'ai constaté que l'appropriation de mes collègues, qui étaient lyonnais à l'époque et proches du terrain, était complètement différente de la hiérarchie et des directions au siège. C'est-à-dire que plus on montait, enfin plus on s'éloignait en fait, on va dire, de la réalité du terrain, plus on était en fait dans l'idéologie, au sens où un monde projeté et qui était éloigné de la réalité. Mais dans un sens, ça se comprend parce que la recherche, ça s'intéresse au réel. Donc tous ceux qui étaient au plus proche de ce réel-là pouvaient comprendre l'intérêt en fait que ça allait avoir. Et plus on s'éloignait et plus on était en fait dans des formes d'idéologie, et donc c'est difficile de s'approprier ça.
Juste, je complète très rapidement, mais parce que le constat que tu fais, Chantal le faisait aussi pour l'ADEME, finalement, moi j'ai pu le faire aussi chez GDF Suez par exemple. Pour moi, en fait, ça renvoie à la question, on va dire au problème, en fait, du pouvoir dans les organisations. C'est-à-dire, aujourd'hui, effectivement, les personnes de terrain vont comprendre les résultats, mais n'ont pas les marges de manœuvre pour changer l'organisation. Or, dans les grandes organisations, que ce soit publiques ou privées en France, qui a le pouvoir? C'est des gens qui, en général, n'ont pas été formés du tout aux sciences humaines et sociales. Voilà. Et n'ont pas, ne sont pas forcément en capacité de saisir en fait, l'intérêt et de le raccrocher à leurs préoccupations.
Ouais. Juste pour ajouter quelque chose, c'est peut-être aussi la raison pour laquelle la problématique des usages, au moins à l'échelle du bâtiment, elle est remontée dans les directions d'entreprises, bureaux d'études, même bailleurs sociaux, en fait, dès lors que ça venait contredire leurs intérêts. C'est pour ça que je parlais de contre-productivité aussi tout à l'heure. C'est moi, ce que j'ai l'impression que depuis le début où j'ai fait ma thèse, la question des usages, elle a émergé, elle est devenue de plus en plus importante, parce que ça devenait un enjeu du point de vue de l'intérêt même des acteurs. Ils se disaient, mais en fait, si on occulte trop la réalité sociale, ça va se retourner contre nous. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer au niveau des réglementations thermiques, où la réglementation thermique de 2005, et pour, par rapport à la comparaison internationale, elle a été faite à une époque où on allait en pèlerinage en Allemagne pour voir le modèle et copier les bonnes pratiques. Et aujourd'hui, pour 2020, il y a quand même l'idée c'est de ne pas aller aussi loin, parce que sinon ça va se retourner contre nous. Et moi, j'ai vraiment vu cette problématique sociologique qui a émergé du point de vue d'un intérêt purement économique ou politique du point de vue des organisations.
Et la réglementation thermique 2012, ouais, dont on a parlé, a été suspendue à cause des problèmes en fait, qu'il y avait sur les logements collectifs.
Juste rebondir sur un truc qui a été dit avant, c'est sur la complexité de la fonction de la sociologie. On lui demande en fait de dévoiler de la complexité. Et ça devient tellement complexe, à un moment donné, que c'est le bordel. Comme me l'a dit une scientifique à une conférence sur le changement climatique, elle me pose une question, puis je dis, ça dépend quel groupe de société, puis en plus, si vous avez des enfants, puis en plus, si vous êtes à la retraite, c'est pas la même chose non plus. Mais elle dit, pourquoi? Comment pouvez-vous penser qu'on va vous solliciter en matière de gouvernance climatique si vous n'êtes pas foutu de me donner des réponses claires? Ben, ma réponse, elle était claire. Okay. Donc, en fait, et c'est là que je suis un petit peu pas tout à fait d'accord avec toi, c'est qu'une fois qu'on a dévoilé cette complexité, on a quand même d'autres boulots qu'on adore faire en sociologie, c'est la catégorisation des populations. Et ça, c'est une resimplification de la complexité qu'on vient de dévoiler pour la rendre plus manipulable. Franchement, ça, je me mets dans les souliers de Foucault, là, mais quand même. Donc, faire la catégorisation de population, c'est de rediminuer la complexité pour la rendre potentiellement gérable. Pour au moins, plutôt qu'à avoir 150 000 messages à 150 000 personnes différentes pour faire le même truc, on dit, bon, il y a 4 grands groupes sur les 150 000, on va faire 4 messages, ça va être suffisant. Ouh, heureusement. Vous voyez, donc, il y a des tensions internes par rapport à ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on nous demande de faire ensuite. De l'analyse à l'après-coup.
Je donne la parole à Sylvain.
Oui, ça reste sur le même thème, c'est justement ce que... Il y a pas moyen, enfin, peut-être qu'en fait il faut retraduire nos résultats pour qu'ils parlent, enfin, pour qu'ils parlent plus aux instances dirigeantes, enfin, mieux comprendre leur langage et leurs intérêts. Ça ne veut pas dire qu'il faut transformer nos résultats, mais en tout cas, savoir les formuler dans un langage qui puisse s'approprier. C'est vrai que le problème, c'est qu'eux, ils sont assez demandeurs de pensée magique. Donc, nous, c'est pas forcément ça qu'on a à leur proposer. Mais voilà, mais c'est peut-être un savoir-faire aussi qu'on n'a pas forcément. Pas forcément de politique, mais en tout cas, d'une organisation, un bailleur social, par exemple, on a pas beaucoup les élus à la tête, mais en tout cas, c'est des gens qui ne réfléchissent pas comme les opérationnels.
Alors, il y a Dominique qui voulait dire que...
Juste une remarque, ça me fera beaucoup de points de réception. Et souvent, on a fait Zoli. Le préfet Zoli, lui, il est sur l'imaginaire, il est sur la pensée magique. Moi, j'ai une pensée hyper réaliste. Je ne discute pas qui est mieux. Et je suis frappé de voir que le sociologue qui est reçu en publicité, c'est ma fée Zoli. Et celui qui en est aidé, c'est moi. Là, c'est très intéressant. Il y a bien une logique. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il y ait une solution pour présenter. Donc, une fois, je passais auprès du grand patron du Nord. Bien qu'il a compris, il m'a dit le lendemain, je donne un appareil de photo à tous mes techniciens qui réparent des chauffages. Mais tous les autres m'ont parlé de ma fésolie pendant le repas. J'étais très content, du reste. Et heureusement, le vice-président à côté, qui est un malin, dit « J'espère que ma fésolie est un de vos amis. » Je lui dis « Absolument. » Ce qui n'est pas entièrement faux par ailleurs comme personne. Mais on voit bien, moi je ne vois pas au niveau des hiérarchies, et c'est pour ça que le marketing marche bien là, c'est tout. On a besoin des discours enchantés et magiques. Dès qu'on est en distribution et en commercial, ça passe tout seul. Comment on voit que ça passe? Et c'est par la discussion. Les gens disent « Ah oui, c'est comme moi ». C'est ça l'indice que ça marche. Hein. C'est, on discute les cas que vous racontez. Donc c'est vrai que les endroits, je vois où ça marche. Quand on fait les enquêtes réalistes, c'est la R&D, le commerce, la distribution. Les commerciaux, ça marche tout seul. C'est exactement comme ceux qui ramènent les boutons tous les jours, là, qui les montrent, qui ressortent de plus de fuir, j'ai trop froid, j'ai trop chaud, etc. Ceux-là, ils comprennent tout de suite que nos enquêtes sont très, très ethno, très concrètes. C'est logique. Parce qu'un malheureux dirigeant lui enlève tout son truc. Je veux dire, et lui, il a des discours de justification à faire, et c'est normal. Enfin,
on a eu fait une analyse un peu. Enfin voilà, les enjeux économiques. Et à l'ADEME, aussi, il y a des enjeux de contraintes. C'est pour ça que c'est plusieurs niveaux d'analyse sociologique, c'est-à-dire qu'on peut être à côté du compteur et regarder l'exécuteur. On peut aussi se demander pourquoi le business du compteur monte en puissance, etc. Et voir les ficelles de tout ça, c'est un autre niveau d'analyse. Ça peut aussi éclairer l'objet compteur, mais c'est une autre. Il n'y a pas forcément beaucoup pour inviter à nous, à la tête, on a financé des travaux comme ça un peu. C'est un peu, mais aujourd'hui, on en finance quelques-uns. Mais on en a financé un peu.